Bonjour et bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera la deuxième partie sur les fêtes d'Israël. Bonne écoute!
Le bouc destiné à mourir était offert pour les péchés du peuple. Une fois sacrifié, son sang était amené dans le lieu très saint. Et ça, c'est pour la deuxième fois que le grand prêtre entrait ainsi dans le lieu très saint. Alors, celui-ci posait ensuite ses mains sur la tête de l'autre bouc vivant et confessait alors les péchés du peuple en entier. Le bouc était alors relâché par la suite dans le désert. Et cela représentait l'expiation des péchés d'Israël. Dans le judaïsme, il y a la pensée juive. Dans la pensée juive, un élément qui ressort, c'est que l'homme peut expier ses péchés à travers ses propres efforts. Mais cela, nous le savons, n'est pas tout à fait biblique. Le judaïsme, n'ayant plus de temple depuis sa destruction en l'an 70 après Jésus-Christ, le rituel des sacrifices a été remplacé. Ils le font d'une autre façon, ils ont d'autres pratiques. Au sujet de l'humiliation de l'âme, correspondant avec ce jour des expiations, ils l'ont remplacé par l'humiliation du corps, en fait. Ce jour des expiations dans le judaïsme est prescrit comme un jour de jeûne. C'est une tradition juive qui interprète l'humiliation de l'âme de cette manière-là. C'est comme des passages qu'on voit dans Joël au deuxième chapitre. Les prières qui avaient commencé à Rosh Hashanah se poursuivent jusqu'à ce jour. Majoritairement, les Juifs n'offrent pas de sacrifice avec le sang, mais il y en a qui le font. Ils remplacent cela par trois choses: la repentance, la prière et la charité. À travers les 10 jours d'introspection et de repentance depuis Rosh Hashanah, les Juifs, durant ce délai, se préparent au décret final de Dieu, à Yom Kippour, en fait. Ils croient que c'est à ce moment que Dieu décide pour cette nouvelle année qui sera prospère ou dans la disette, qui sera malade et qui sera en santé, qui va mourir dans cette année et qui va vivre. Et aussi, pour l'occasion de cette journée, il s'impose différentes sortes d'abstinence, du jeûne et d'autres, plusieurs autres choses. La signification messianique de ce jour, bien, ce jour-là est accompli par Jésus, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Les deux boucs représentent Jésus. Le bouc expiatoire pour les péchés du peuple, l'autre bouc émissaire vivant sur lequel le grand prêtre plaçait ses mains et confessait les péchés du peuple, et ensuite chassait le bouc dans le désert. Lié prophétiquement à ce jour, l'expiation qui a coûté les souffrances et la mort de Jésus-Christ à la croix. Cela nous fait réaliser, ou doit nous faire réaliser, l'ampleur de son sacrifice en réalité. Le sacrifice suprême du Seigneur est décrit dans Ésaïe 52, verset 13 et suivant, jusque dans le chapitre 53. Il y a dans ces passages l'idée de substitution et d'expiation, dans les versets par exemple 5 à 8. Il ne se réfère pas seulement à la crucifixion, mais il peut contenir l'idée de la confession d'Israël, lorsque celui-ci confessera son péché à l'échelle nationale et qu'il sera sauvé en tant que nation, dans l'ensemble de la nation. Comme nous l'avons vu, l'élément qui ressort de ce jour est l'affliction. Ainsi, le jour des expiations sera accompli par la grande tribulation. Alors, nous avons différents verset dans la Bible qui décrit ces événements particuliers. Et ce sera alors l'affliction de l'âme et du corps. Cette affliction est détaillée dans les écrits du prophète Osée, Osée 5, 15, verset suivant. C'est intéressant de regarder ces passages-là, en particulier dans différentes versions de la Bible. Et d'après Zacharie, au 13e chapitre de son livre, les deux tiers de la nation seront détruits. Leurs âmes affligées se tourneront alors vers le Seigneur avec supplication, vers celui, Zacharie dit même au chapitre 12, verset 10, et que celui qu'ils ont percé, ils vont tourner le regard vers lui. Et cette puissante expiation va conduire à la dernière et la plus grande des fêtes. Nous avons vu donc 6 fêtes jusqu'ici. Et nous sommes rendus à la 7e, cette fête des tabernacles, appelée les tabernacles. Donc ça peut être tente, hutte ou cabane. Ça revient à la même chose en réalité. C'est certainement parmi les 7 fêtes bibliques, Soukhot en hébreu, la plus grande fête pour les Juifs. Donc, vous avez la description dans Lévitique 23, où là où la majorité des fêtes sont consignées, verset 33 et suivant. Donc, je lis, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, dis le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour, le 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours, cette loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Vous célébrerez le 7e mois, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Alors, en tout, 70 taureaux sont offerts durant cette fête. Bien sûr, lorsque on parle dans les temps où il y avait la possibilité de faire ces sacrifices, parce que maintenant, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifices comme ça. Mais c'est pourquoi 70 taureaux? Bien, ça représentait pour eux les 70 nations païennes de Genèse 10. Ce qui est significatif, c'est que le judaïsme a relié cette fête aux gentils, ce qui n'est pas le cas des autres fêtes. La fête des huttes se trouve aussi dans Deutéronome 16, versets 13 à 15, qui met l'accent sur l'aspect de réjouissance commandé pour cette fête. Elle est aussi appelée une fête de la récolte. Elle marque la fin de la moisson d'été. Un autre nom pour cette fête, c'est Simchat Torah, qui veut dire la réjouissance grâce à la loi. La pratique biblique de la fête des huttes, bien, premièrement, c'était une fête de 7 jours avec un 8e jour qui lui était ajouté. Et deuxièmement, cette fête devait être observée en construisant des huttes ou des cabanes pour commémorer les 40 années d'errance dans le désert. Pendant ces 40 années, les Juifs ont vécu dans des cabanes et des huttes, ce qui met l'accent sur leur résidence temporaire. En souvenir de ces 40 années, chaque année, les Juifs devaient demeurer dans ces cabanes durant 7 jours, de telle sorte que c'était confectionné avec des branches et différentes choses assez légères pour laisser plus d'ombre que de lumière et aussi qu'on puisse voir quelque part des étoiles dans le ciel. Et troisièmement, la fête des huttes doit être célébrée avec 4 espèces de végétaux qui sont dans la Bible, 3 sortes de rameaux et un fruit. Le fruit est un citron et les rameaux doivent être des branches de palmiers, de myrte et de saule. Vous avez des références. Quatrièmement, La fête des huttes devait être un temps de réjouissance suivant l'affliction du jour des expiations, parce que c'était donc la fête qui suivait ce jour. Hein. Donc le premier symbole, la hutte ou la cabane, est devenu un symbole en fait pour les Juifs de la perte de l'espoir national, et en même temps la hutte apporte d'un autre côté l'espoir. Alors, d'une restauration, justement, une restauration future. Cette idée est basée sur Amos 9:11, où Amos promet qu'un jour la hutte, la cabane ou le tabernacle de David seront restaurés. Selon la tradition juive, la cabane doit être faite de matériel peu solide pour donner la même sensation de résidence temporaire et d'insécurité que les Juifs ont eu dans le désert. Le deuxième symbole, le loulav, il sert à attacher ensemble les branches de palmier. Les branches de palmier, signe de victoire et de joie. Aussi, les branches de myrte et de saule utilisées pendant cette fête. Les Juifs ont l'habitude d'utiliser une branche de palmier attachée à trois branches de myrte et deux branches de saule. Le loulav est porté à la main et agité dans toutes les directions. Le troisième symbole de cette fête est le citron, qui est un agrume. Ce fruit symbolise la terre promise et est considéré comme étant la meilleure représentation de la terre d'Israël à cause de son parfum et de son goût, contrairement aux autres rameaux suggérés. Il est important de mentionner aussi les deux cérémonies clés que les Juifs pratiquaient au temps du Temple quand Jésus était parmi eux. La première cérémonie, appelée le versement de l'eau, consistait pour le prêtre à marcher depuis la montagne du Temple jusqu'à la vallée de Kidron, où il se rendait à la piscine de Siloam pour remplir les contenants d'eau. Puis les prêtres repartaient vers le Temple alors qu'ils remontaient les 15 marches du Temple, et bien là, ils chantaient les psaumes de l'ascension ou des degrés. Vous savez cela, ce sont les psaumes 120 à 134. Une fois arrivés, ils déversaient l'eau dans le lavoir du Temple et une grande réjouissance suivait. Les rabbins interprétaient le versement de l'eau comme un symbole du versement du Saint-Esprit sur Israël à la fin des temps. Un deuxième élément de la cérémonie était l'allumage des bougies. Dans le temple, il y avait deux immenses bougeoirs d'or, chacun ayant quatre coupes d'or. Pour le judaïsme, cela était un symbole de la clarté émise par la gloire de Dieu, la gloire de la Shekinah. La fête des huttes a été observée par Jésus lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il a observé la fête, il a pratiqué deux cérémonies. Importante en fait. Au cours de la première, le versement de l'eau symbolisant le versement de l'Esprit Saint, il a alors lancé son invitation.
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Brochu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com. À bientôt!